There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pourquoi Chaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Commémoration du 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, du 9 au 12 avril 1917, dans le nord de la France. Commémoration organisée cette année par le comité Vimy-Toronto 2022. Le 9 avril 1917, une première vague de Canadiens avançant derrière un barrage roulant. Même si cette tactique d'artillerie assurait un certain couvert, nos soldats étaient quand même exposés à des tirs de mitrailleuses ennemies. Pour commémorer le 105e anniversaire de la bataille de Vimy, le comité Vimy-Toronto 2022 vous donne rendez-vous dimanche 10 avril 2022 à 10h au 55 au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. C'est le métro Queen. Pour plus de renseignements, M. Gérard Poupé-Hill du comité Vimy-Toronto 2022. Vous pouvez le joindre par courriel au ggpoupéhill@gmail.com. Tous les détails sont sur notre site web popourrichaud.com. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy du 9 au 12 avril 1917. Non plus jamais ça. 100 000 Canadiens participaient à la bataille de la crête de Vimy. Plus de 10 600 Canadiens blessés. 3 600 y laissèrent leur vie. Le courage, la bravoure, l'abnégation des vétérans est une source d'inspiration. N'oublions jamais. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy dans le nord de la France. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre est aux portes de l'Europe. Nos pensées vont aux populations civiles, familles pauvres et personnes vulnérables en Ukraine. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, dimanche 10 avril 2022, à 10h, au 55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto, métro Queen. Tous les détails sur popourrichaud.com. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Non plus jamais ça, non plus jamais la guerre. Allez, allez, mesdames et messieurs, chers amis de Musique des Îles, un des chanteurs, artistes, auteurs, compositeurs mauriciens le plus apprécié, Ludovic Lamarck, alias Mr. Love, actuellement tourné en Europe, a fait un détour et sera pour la première fois sur scène à Toronto. Ah, le Sega de l'île Maurice, concert unique and grand bal mauricien le samedi 9 avril 2022 de 20h à minuit à l'Agora de notre place 1780 boulevard Medoville à Mississauga en collaboration avec Sega Sound Promotion, Kilty and New Zeal et les artistes des îles. Réservez vos billets, allez immédiatement en visitant le site web segasound.com. Après Londres, l'Italie, Dublin, Montréal, où il a joué à guichet fermé. Eh oui, guichet fermé. CUTFM et la communauté mauricienne de Toronto vous y attend samedi 9 avril dès 20h à l'Agora de notre place 1780 boulevard Medoville à Mississauga. Deux paires de billets gratuits pour les membres de la radio ou réservés au segasound.com ou écrivez-nous popourri@cut.fm. Ah, jolie madame. Le 9 avril, Mr. Love de l'île Maurice, the one and only. Un concert unique, découvrez la diversité, les multiples cultures de l'île du Dodo, la clé de l'océan Indien, les mets délicieux, yum yum yum, de l'île Maurice, pays membre de la francophonie. Pour plus d'infos, popourrichaud.com ou pour gagner les billets gratuits, popourri@cut.fm. Allez, dégazez, dégazez, galoupez, madame, monsieur. Pas tarder, un tam tam, jolie vibration avec Mr. Love. Dimanche 3 avril 2022. Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie à la Radio Campus de l'Université de Toronto. J'espère que vous allez bien. Dernière émission avant le grand départ. L'ingénieur du son, DJ Devera, production et animation, Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et pour réécouter nos émissions tout au long de l'année, où que vous soyez sur la planète, popourishow.com. Et l'émission de ce dimanche est réalisée en partenariat avec le CREFO, Sophie Franc, organisme phare pour les immigrants de Niagara Welland en Ontario, SegaSound.com et le concert, l'unique concert de Monsieur Love, Mr. Love, artiste mauricien à Toronto. C'est prévu pour le 9 avril à 20h. Deux billets gratuits aux membres de Popourri Show. Un entretien exclusif avec l'artiste mauricien Mr. Love vers 12h35 à ne pas manquer. Et au menu de ce dimanche, élection présidentielle française 2022, en partenariat avec les membres des Français de l'étranger de l'Ontario. Dernière ligne droite avant le premier tour, dimanche prochain. Et oui, nos radios partenaires vous proposent une programmation exceptionnelle afin de vous être utile pour ce grand moment démocratique. En dernière heure, avant la présidentielle, une nouvelle affaire menace la Macronie. Polémique au sein d'un conseil scolaire francophone à Ottawa, des élèves noirs placés dans un programme spécial à l'insu des parents continuent à faire des vagues. Et oui, les stéréotypes et leurs conséquences sur les jeunes francophones issus de minorités raciales, on en parle si on a le temps. Pour tout de suite, le 10 avril prochain, les Françaises, les Français vont choisir leur candidat pour le premier tour. Et oui, comment les journalistes étrangers jugent la campagne présidentielle française? Reportage.
Événement.
France 24 vous fait vivre l'élection présidentielle française. Cette année, le président Macron sera-t-il réélu pour 5 ans ou sera-t-il battu par l'un des candidats déterminés à le faire tomber? France 24 couvre la campagne électorale et va à la rencontre des Français, des candidats et de leur soutien. Suivez l'élection présidentielle française tous les jours sur France 24 et France24.com.
Notre séquence présidentielle, comme tous les jours dans cette émission, un débat complet consacré à l'élection. On est à 18 jours du premier tour. Alors on vous propose de revivre les moments forts de ces derniers mois avec un regard décalé, celui de quatre correspondants étrangers. Ils ont choisi des dates clés dans cette campagne. On va les entendre dans un instant. Mais d'abord, Samia De Chir qui analyse l'une des particularités de notre paysage politique, des partis politiques historiques à la peine et des populismes au plus haut.
Sondage après sondage, la montée de l'extrême droite se confirme. À eux deux, Marine Le Pen et Éric Zemmour totalisent plus du tiers des intentions de vote. Un phénomène qui touche toutes les grandes démocraties. L'AFD en Allemagne, la Ligue en Italie et plus récemment le parti Vox en Espagne, qui vient d'entrer pour la première fois dans un gouvernement régional.
La France a été de ce point de vue-là un peu innovante. Elle a été un peu en avance avec le Front National de Jean-Marie Le Pen dès les années 80 et ses premiers succès en 84 aux européennes notamment. Et ensuite, on a bien vu que ce phénomène s'est dilué, je dirais, à travers l'Europe et on l'a vu également à travers le monde. C'est la nouveauté de ces extrêmes droites, de ces nationalismes, c'est que ces nationalismes sont devenus internationaux. Et notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, qui leur permet d'échanger des idées à travers la planète.
Si la France ne fait pas exception dans cette poussée de l'extrême droite, l'effondrement des partis traditionnels semble en revanche être une spécificité française. Alors que les sociaux-démocrates sont au pouvoir en Allemagne, en Espagne et au Portugal, le Parti socialiste français, lui, connaît une longue descente aux enfers. Et si Valérie Pécresse est éliminée au premier tour de la présidentielle, la droite républicaine pourrait connaître le même sort.
Les partis politiques en France n'ont pas su se positionner. Nous sommes dans un régime qui est de plus en plus présidentiel, présidentialiste. On ne parle plus que des candidats, on parle très peu des projets. Alors que lorsque vous regardez les autres démocraties européennes, on est dans un gouvernement de coalition, il faut faire des compromis et donc tout ne vient pas d'un seul homme ou d'une seule femme au pouvoir. C'est la Ve République, à mon avis, qui est en crise et qui peut expliquer que faute de contre-pouvoir au Parlement, eh bien, les électeurs se tourneraient maintenant plutôt vers des partis radicaux et extrêmes.
Ce qui explique aussi une autre particularité française, la percée de la gauche radicale en parallèle de celle de l'extrême droite. Derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est désormais en troisième position dans les sondages.
l'Union populaire l'emporte.
La présidentielle, avec le regard de quatre correspondants de médias étrangers à Paris, Ana Navarro Pedro, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes correspondante pour plusieurs médias portugais. Paolo Livi, bonsoir, correspondant en France pour l'ANSA et la Stampa. Richard Verli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant permanent du quotidien suisse Le Temps à Paris, et vous publiez aujourd'hui La France contre elle-même aux éditions Grasset. Avec nous également en duplex, en visioconférence, Adam Sage, qui est correspondant du Times à Paris. Bonsoir, bienvenue à vous aussi. Et évidemment, Laetitia Krupa est restée à mes côtés. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et de vous être prêté au jeu, puisque je vais vous demander de choisir des moments forts de la campagne. Mais avant de les découvrir, Alain Navarro-Pedro, votre première action, c'est... autour de cette décision de nos confrères de TF1 de diffuser le film Les Visiteurs à 21h30 le 10 avril au soir du premier tour.
J'étais bouche bée quand j'ai appris ça, j'ai relu, j'ai dit c'est pas une blague, c'est pas un fake news. Puis après, si on considère bien, tout bien réfléchi, cette campagne n'intéresse pas tellement les Français. TF1 a dû en prendre acte, se dire il n'y a pas assez de temps de cerveau disponible pour...
c'était la phrase pub. De Patrick Lelay à l'époque.
Voilà, pour la pub. Et donc, on va passer sur quelque chose de plus bankable que les élections, le choix par les Français, de premier personnage de l'État. C'est assez extraordinaire de voir cela, parce que c'est quand même une télé privée. C'est une télé donc qui doit faire de l'argent. Et qui va le faire en mettant de côté l'un des moments les plus importants de ce pays.
Comment on sait que les Français ne sont pas intéressés par cette campagne? C'est très prétentieux de la part de TF1 finalement de précéder. Comment savent-ils?
C'est ce que disent les sondages.
Comment savent-ils ce que
il n'y a pas que les sondages le disent. Donc on va vraiment, c'est une unité de mesure peut-être pour TF1, mais nous-mêmes qui sommes en contact des Français tous les jours, nous journalistes étrangers, peut-être plus que certains Français même.
Mais non, mais vous êtes en contact de 150 personnes au maximum, peut-être 200 parce que vous avez un réseau très grand, mais 200, c'est pas
un réseau, c'est vraiment parler avec les gens. Alors, partout où on va. Ouais. Et ils disent vraiment, ils sont pas intéressés. Mais ils expliquent pourquoi aussi. Parce que pour certains, ils disent, ils s'intéressent pas à nos problèmes à nous. Et ça ne nous intéresse pas non plus. Et puis en plus, soyons clairs, il n'y a pas de suspense d'après les sondages, encore une fois, quant à l'issue.
Moi, je passe mon temps, émission après émission, à dire qu'il y a encore beaucoup d'indécis, qu'il y a 30% encore des Français qui ne se sont pas décidés, même si effectivement, il y a a priori, on peut les voir les chiffres, je suis sûr que vous allez me suivre en régie tout de suite, on l'avait prévu plus tard, mais c'est intéressant sur le risque d'abstention. C'est un sondage BVA pour RTL Orange au début de cette semaine, 21 mars, 71% des Français... alors, on n'est pas sur le bon, mais vous allez suivre. 71% des Français, voilà, ont l'intention de voter à la présidentielle. On serait au niveau du premier tour de 2002 avec cette participation-là. 71, c'était 71,6 en 2002, mais bien au-delà, bien en dessous de d'autres scrutins présidentiels. Paolo Livi, est-ce que il reste 3 semaines hein, pour mobiliser les électeurs, mais est-ce que vous avez ce même sentiment exprimé à l'instant que cette campagne, elle intéresse pas beaucoup les Français et du coup un peu moins aussi vos lecteurs en Italie.
Bah écoutez, non, j'ose espérer jusqu'au bout que c'est pas le cas. Ça m'étonnerait que les Français ne s'intéressent pas à leur élection, d'autant plus que c'est une élection qui suscite un intérêt dans les autres pays européens, parce que le choix d'un président français aujourd'hui au sein de l'Europe va avoir un impact direct sur la vie des citoyens italiens, espagnols, allemands. Donc c'est très important.
C'est vraiment perçu comme ça.
Absolument. Ouais. Disons que nos pays sont de plus en plus entrelacés,
interdépendants
un de l'autre. Je considère aujourd'hui qu'une élection présidentielle française, passez-moi peut-être une phrase un peu forte, mais c'est presque une question de politique intérieure pour des Italiens. Ouais. Et c'est très important. Vous avez vu ces dernières 2 années, qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble pour sortir de la crise due à la pandémie. Je pense notamment au plan de relance qui a été rendu possible. C'est vraiment une petite révolution copernicienne qui a été faite parce qu'elle introduit pour la première fois en Europe une forme de mutualisation de la dette et donc de fraternité européenne. Et cela a été possible grâce justement à l'union de grands pays européens comme l'Italie et la France qui ont fait pour la première fois tomber ce qui était un tabou allemand quelque part et qui était l'Europe de la rigueur, de l'austérité qu'on connaît très bien. Oui. Donc vraiment, je souhaiterais voir le plus grand nombre d'électeurs français aller aux urnes le 10 et le 24 avril, aussi. Même parce que c'est un moment très important aussi pour l'histoire mondiale où on est, où on voit les vents des autarquies, d'autres modèles qui cherchent de s'imposer sur
On regarde toujours ce que les populistes font dans d'autres pays et on le suivra ici aussi.
Mobiliser pour la démocratie serait aussi un excellent message.
Allez, le message est passé.
De Poutine et de la Chine.
Oui, Richard Verly, dans votre livre, vous décrivez une France en guerre contre elle-même. Est-ce que vous retrouvez ce constat finalement dans cette campagne présidentielle ?
Oui, parce que la France a un talent, les Français peut-être, mais le pays aussi a un talent particulier pour se dresser des obstacles qu'il n'arrive pas à surmonter. Au fond, le thème du livre, j'ai suivi une ligne de fracture terrible qui était la ligne de démarcation de 1940. À ce moment-là, sans doute peut-être le seul moment de l'histoire contemporaine où la France a été vraiment menacée de disparition. Elle pouvait disparaître. L'histoire a montré qu'elle n'a pas du tout disparu, y compris même pendant la guerre. Mais depuis lors, on met sans arrêt les fractures et ce qui se passe avec la campagne est assez, je dirais, révélateur. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont en train de dire cette campagne ne fonctionne pas, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de débat. Autrement dit, on met l'obstacle avant même d'entamer le débat. Moi, je pense que l'intérêt des électeurs pour la campagne, pour l'enjeu, il est là, il est présent. Mais les gens ont aussi conscience des circonstances très particulières. Et au-delà des circonstances, c'est-à-dire de la guerre en Ukraine, il y a quand même une vraie question posée. C'est est-ce que dans le contexte de cette guerre, on peut demain gouverner la France autrement ? Et ça, c'est au fond le vrai sujet. C'est-à-dire, compte tenu du fait qu'il y aura une énergie très chère, j'ai pas besoin de vous énumérer tout ce qu'on dit en permanence, est-ce que demain, il y a une alternative ? Et au fond, la force aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est celle-là. Oui. C'est qu'il y a un côté incontournable à la manière de diriger la France demain. Et donc, le fait que les Français, peut-être, n'aillent pas aux urnes ne signifie pas qui sont pas intéressés par la politique. Je suis pas sûr que l'abstention de 2022 aura la même signification que l'abstention de 2002.
Oui. Et puis elle n'est pas écrite. Encore une fois, trois semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Adam Sage, la presse britannique et l'opinion britannique, est-ce qu'elle reste tournée un petit peu vers la France malgré le Brexit?
Par rapport à la force des choses, beaucoup moins que pour les élections précédentes, à cause de la guerre en Ukraine, évidemment, qui domine l'actualité internationale. Aussi, peut-être parce que les sondages montrent un deuxième tour Macron-Le Pen, même que la dernière fois. C'est toujours moins intéressant quand vous avez la même tête que la dernière fois. Et une victoire du président en place. Donc, pour toutes ces raisons, il y a moins d'intérêt que d'habitude dans cette élection présidentielle française. Je suis pas sûr que le Brexit soit un facteur. On s'intéresse toujours à la France. On n'était pas dans le même camp quand il y avait Napoléon, mais on s'intéressait à la France. Donc je pense pas que ça soit fondamental. Oui. Mais par la force des choses, cette élection a fait moins d'impact médiatique que les élections précédentes. Oui, c'est sûr.
On va parler d'Emmanuel Macron un petit peu. D'abord avec vous, Laetitia, son parti LREM qui a finalement pas vraiment profité de ce quinquennat pour renforcer, ou en tout cas pas suffisamment puissamment, son maillage territorial.
Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Là c'est même un euphémisme, c'est-à-dire c'est presque un parti fantoche, quoi. Mais on se rend compte que finalement, parti de rien, finalement, il a été créé à partir de rien. Aucune assise, aucun ancrage. Il a réussi à gouverner, Emmanuel Macron, avec une Assemblée nationale majoritaire. Et donc, il propose un nouveau modèle. Pour nous, c'est tout à fait inédit, ce paysage politique-là. Et il me semble qu'il y a une erreur dans l'appréciation que l'on fait de l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la politique française et de son quinquennat, parce que souvent on entend qu'Emmanuel Macron est responsable de la disparition des partis politiques.
Oui, or, des partis traditionnels, on va dire PS, LR, quoi.
Voilà. Or, je crois qu'en fait, on prend la situation du mauvais côté, c'est-à-dire que ce n'est pas la raison, ce n'est pas la cause Emmanuel Macron, mais un symptôme. Emmanuel Macron est arrivé à ce moment précis de notre histoire politique, partisane, démocratique, où effectivement les partis politiques s'affaissaient. Partis politiques qui sont des corps intermédiaires. Ce ne sont pas les seuls à s'être affaiblis finalement quand on regarde. Mais c'est vrai qu'ils s'affaissaient. Emmanuel Macron en a profité, a proposé cet en même temps, finalement, qu'il n'avait même pas théorisé, si vous voulez. Hein, ce sont plutôt les journalistes qui l'ont théorisé avant lui, et puis maintenant il s'en sert. Mais bon, après tout, la vraie question, Thomas, il me semble que c'est est-ce que le bipartisme va revenir ou est-ce que cette disparition de LR et du Parti Socialiste est définitive? Et pour l'instant, nous n'avons pas vraiment la réponse, puisque pendant 5 ans, ni les Républicains, donc ni la droite, ni la gauche, a réussi à se reconstruire. Et ce n'est pas encore là, on l'entend souvent, parce qu'Emmanuel Macron a composé un gouvernement avec des politiques de gauche et de droite. Nicolas Sarkozy l'a fait avant lui en 2007. Donc c'est vraiment pas nouveau. Donc si vous voulez, à toujours regarder la poutre, c'est ça le petit proverbe, hein, on ne voit pas la paille dans l'œil du voisin, on ne voit pas la poutre qu'on a dans le sien, ou c'est le contraire, bref, on a compris mon idée. Je pense que vraiment, on a une vision qui est faussée du macronisme.
Alors c'est intéressant parce que ça m'offre un lien pour votre choix à Anna Navarro-Pedro. On va ouvrir un chapitre consacré à la gauche et à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez choisi ce jour où Ségolène Royal annonce qu'elle soutient le fondateur de la France Insoumise. Regardez.
Aujourd'hui, la question sera, quel sera le vote utile à gauche? Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qui pouvait déplaire chez lui, qui est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups, et donc c'est lui le plus solide.
Assister, alors, pas à ce meeting-là, mais au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, là on est le 5 décembre, donc on est dans la première phase de sa campagne, où au contraire, il est plutôt dans une portée par la thématique, sa thématique, sa monothématique, j'allais dire, de l'immigration et de l'islam. Qu'est-ce qui vous avait frappé? Quel souvenir vous en gardez de ce meeting? La violence?
Disons, ça a été une journée assez particulière dans le sens où on s'attendait vraiment, ça devait être le tremplin pour cette campagne d'Éric Zemmour, et très vite ça s'est transformé en une sorte de film de western avec des chaises qui volaient d'un côté à l'autre de la salle. Donc ma réflexion personnelle a été, si ce monsieur veut n'est pas en mesure de garantir la sécurité de son meeting, j'ose pas imaginer qu'est-ce qu'il va faire pour garantir la sécurité d'un pays entier. Après, moi j'avais aussi beaucoup de questionnements par rapport à des réponses, parce que lui il évoque tout le temps cette question identitaire qui est vraiment son mantra. Mais quant aux autres grandes questions, qu'est-ce qu'il nous dit de la Chine, des grands enjeux d'avenir? Il en parle très très peu. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu avec lui un débat assez surréel pendant la pandémie. Je vous le raconte parce que très rapidement, c'était assez drôle, parce qu'on était en direct sur une petite chaîne première de la télévision française, et à un certain moment, moi, je cherchais de défendre un petit peu l'idée européenne, le fait qu'on devait être tous ensemble, main dans la main, pour répondre à la pandémie. Et lui, il m'a répondu, cher monsieur, l'Italie n'existe pas. L'Italie devrait être française, et vous, les Italiens, vous devrez être français, parce que si Napoléon avait gagné, vous serez français. Donc moi je me demande,
son adoration pour Poutine finalement, parce qu'ils sont restés bloqués.
Non, mais rendez-vous compte du risque qu'un tel homme peut représenter s'il accédait à l'Élysée aujourd'hui. Ça serait vraiment un désastre, le vrai suicide français, pour citer son livre, l'élection de Zemmour.
Je me retourne de nouveau vers Alain Sage, parce que vous vouliez vous aussi intervenir sur un autre moment de la campagne d'Éric Zemmour. Heureusement qu'on n'a pas choisi tous vos extraits, sinon on aurait fait toute l'émission sur Zemmour. Bref, là on est le 19 janvier à Calais. Je crois que vous avez le sentiment que sa campagne, elle bascule un petit peu ce jour-là, c'est ça?
Je ne sais pas si sa campagne a basculé ce jour-là. En tout cas, j'ai l'impression que ce jour-là, tout son manque d'expérience, il n'a jamais dirigé quoi que ce soit dans sa vie, même pas un service de journal, et son manque d'expérience était assez évident. Il était sur une colline qui surplombait l'ancien jungle, à Calais, maintenant vide. Il essaie de lire un discours, il y avait un vent pas possible qui a arraché tous ses volets de son discours, qui nous empêchait d'entendre quoi que ce soit. C'est une journée très spéciale où il jouait à chat et à souris avec les manifestants qui essaient de le rattraper. Son équipe a annoncé aux journalistes au dernier moment où il allait être, et il fallait aller en voiture très rapidement pour essayer de trouver où il allait être autour du port. Finalement, à la fin de cette journée assez spéciale, spécial, les manifestants, essentiellement des activistes ou des volontaires qui travaillent avec des migrants à Calais, hein, pour essentiel, l'ont retrouvé dans, c'était dans un bistrot à Marc, c'est une petite ville à côté de Calais. Alors, ils ont fait une manifestation à dos, alors que lui, il était à l'intérieur en train de parler aux policiers. Bon, ça, c'est, ça a fini un fiasco. Il a fallu qu'on exfiltre par une porte arrière, pendant que son équipe de campagne faisait une conférence de presse devant pour essayer de distraire tout le monde. Je me suis dit, ce jour-là, il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'équipe, il ne peut pas rivaliser avec ne serait-ce que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon.
Merci, Adam. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir plusieurs campagnes derrière soi. On a commencé ce débat par une question de communication et de télévision. On va le terminer sur ce même thème avec la question d'un débat avant le premier tour. Et je vous propose d'écouter ce que disait, c'était il y a quelques jours, 17 mars, Yannick Jadot sur un Emmanuel Macron qui refuse de débattre.
Il a une responsabilité évidente. Il est si fébrile sur son bilan qu'il veut pas en débattre. Et donc, évidemment, l'inaction climatique a été sanctionnée même par la justice française et on voit les régressions sociales tous les jours. Donc, il nous faut un beau et grand débat démocratique pour tirer toutes les leçons de ces crises, pour savoir comment les uns et les autres veulent y répondre et que ce soit un vrai choix positif de société pour les 5 prochaines années. Parce que si on n'arrive pas à purger par la politique, les tensions de la société, et bien effectivement, notre démocratie est en danger.
66% des Français souhaitent un débat avant le premier tour. Anna Navarro-Pedro, pourquoi Emmanuel Macron irait servir de punching ball aux 11 autres candidats?
On peut comprendre son refus. On a déjà eu un petit avant-goût au Parlement européen,
oui,
quand il s'y est présenté et que les élus français du Parlement européen lui sont tombés à bras raccourcis.
Il avait été mal perçu d'ailleurs par les autres députés européens, si je me souviens.
Pas tous.
Oui.
Pas tous, parce que vous voyez, Emmanuel Macron est apprécié et à la fois un tout petit peu, parfois fait grincer des dents en Europe, dans d'autres chancelleries. Vous savez, son attitude avec les Français, un petit peu hautaine, un petit peu rude parfois, bah, il n'a qu'avec les autres aussi.
Ça peut agacer aussi d'autres.
Non, c'est dans sa nature, hein, on n'y peut rien.
Et ben voilà, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, c'était passionnant de vous écouter, de vous entendre les uns et les autres. Voilà, revivre finalement quelques moments forts de cette campagne présidentielle et on continuera de la faire vivre évidemment sur notre antenne et dans cette émission en faisant des gros plans sur les programmes des candidats. Tiens, demain, on vous proposera un débat autour du RSA et de la proposition du candidat.
TV5Monde.com, c'est tout TV5Monde et bien plus encore.
Retrouvez le guide des programmes traduit en 5 langues.
Découvrez les bandes annonces de vos films.
Visionnez où vous voulez et quand vous voulez vos émissions favorites.
Restez connectés à l'information avec toute l'actualité internationale en direct, nos JT et dossiers multimédia.
Voyagez avec un site 100% Afrique.
Visitez toutes les cultures du monde.
Consultez la météo.
Interrogez notre dictionnaire.
Vibrez sur toutes les musiques du monde.
Apprenez et enseignez la langue française.
Jouez et gagnez des cadeaux avec nos quiz et nos concours.
Voyagez, découvrez, partagez. Tous les mondes se rejoignent sur tv5monde.com.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Yeah, moi je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation Diversity Our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média. Croix Rouge canadienne, merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Encore.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France, c'est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festivébène, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie France en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez. Si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourichaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
Popourri Show et CIUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises. Madame, messieurs, chers amis des musiques des îles, un des chanteurs, artistes, auteurs, compositeurs mauriciens le plus apprécié, Ludovic Lamarque, alias Mr. Love, actuellement en tournée en Europe, a fait un détour et sera pour la première fois sur scène à Toronto. Ah oui, un concert unique, un grand bal mauricien le samedi 9 avril 2022 de 20h à minuit à l'Aroga de notre place 1780 boulevard Medovel à Mississauga en collaboration avec Sega Sound Promotion, Kilti and New Zealand et les artistes des îles. Réservez vos billets, allez galouper, galouper immédiatement en visitant le site web segasound.com. Après Londres, l'Italie, Dublin, Montréal, où il a joué à guichet fermé. Et oui, il faut le faire. CUTFM et la communauté mauricienne vous y attend. Samedi 9 avril, dès 20h, à l'Agora de notre place, 1780 boulevard Medovel, à Mississauga. Deux paires de billets, je dis bien deux paires de billets gratuits pour les membres de la radio ou réservés au segasound.com.
Le 9 avril, Mr. Love de l'île Maurice, un concert unique. Découvrez la diversité, les multiples cultures de l'île du Dodo, la clé de l'océan Indien, les mets délicieux yam 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 de l'île Maurice, pays membre de la francophonie. Allez, pour plus d'infos, popourishow.com ou pour gagner les billets gratuits, popourri@cut.fm. Dégazé, dégazé, n'a pas tardé. Un tam tam, The Les Vibrations avec Mr. Love. Présidentielle française 2022. Et oui, vous venez d'entendre à cette foule en délire scander Macron assassin. C'était au meeting d'Éric Zemmour dimanche dernier à Paris. Vive réaction de la part des leaders de différents partis politiques. Et selon plusieurs sondages, il se pourrait qu'il y ait un fort taux d'abstention pour le premier tour. Et un tout dernier sondage nous démontre que 50% des jeunes inscrits sur les listes électorales disent qu'ils n'iront pas voter. Alors, quelle proposition pourrait motiver les jeunes à se rendre aux urnes? Les jeunes Français vont-ils bouder les urnes? Reportage.
C'est le sentiment que les hommes politiques ne se préoccupent pas vraiment de leurs problèmes. Et puis, il faut dire que les moins de 30 ans représentent aujourd'hui moins de dans le corps électoral parce que la population française a vieilli. Donc les jeunes se disent aussi en partie, mon vote ne suffira pas à changer les choses.
Je crois qu'il y a un niveau d'abstention très fort lié à un découragement, une perte de confiance en fait dans l'autorité, un sentiment de déconnexion totale en fait entre les discours politiques qui sont, vous savez, beaucoup sur des programmes. Et je crois que quand on est jeune, on a besoin de modèles identificatoires et inspirants. Et ça, c'est pas, on s'identifie pas à un programme, en fait. On s'identifie à des valeurs, à quelqu'un qui incarne, en fait. Et ce qu'on constate dans les universités, c'est que quand on fait des petits sondages locaux, que ce soit en région parisienne, à Tours ou ailleurs, les jeunes vous disent soit qu'ils vont pas voter, donc à peu près la moitié, et les autres qui vont voter aux extrêmes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les grands partis politiques, ne les inspirent plus.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de parler des vrais sujets. On a besoin de parler de notre quotidien, de notre vie, finalement, qui a été particulièrement bouleversée pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a vu, et je pense que vous vous en souvenez tous, des jeunes faire la queue, par exemple, pour aller à l'aide alimentaire, aller à la soupe populaire pendant la crise sanitaire. Et on a besoin de retrouver un peu de dignité, tout simplement. Donc, une proposition que nous on fait avec Anne Hidalgo, c'est le minimum jeunesse. Et le minimum jeunesse, c'est permettre à chaque jeune d'avoir un revenu minimum garanti, mais aussi d'avoir une dotation en capital de 5000 euros à 18 ans. C'est finalement juste nous donner les moyens de vivre bien, de vivre mieux.
Parce que je crois profondément que la politique, c'est le moyen de changer les choses sur le terrain de manière concrète. Je vous prends des exemples extrêmement précis qui ont été faits, des choses qui ont été faites dans ce quinquennat, qui montrent aux jeunes qui s'engagent sur des sujets précis qu'on peut changer le quotidien. Quand on a eu la crise sanitaire sur la question de la précarité alimentaire, on a des jeunes qui ont fait remonter cette urgence-là. On a dit au président de la République qu'il faut mettre en place les repas au Crous à 1 euro. Il faut élargir ce dispositif. Il y a 600 000 jeunes qui ont bénéficié des repas à 1 euro. Il a mis en place des mesures sur le bien-être animal. On sait à quel point ça touche notre génération, quand on a interdit la castration à vif des porcs, quand on interdit le broyage des poussins, quand on interdit la présence des dauphins et des animaux dans les eaux, ça c'est quelque chose qui parle à notre génération. Et puis dernier exemple, parce que c'est une thématique qui parle à notre génération, égalité femmes-hommes, je suis très fier que ce gouvernement ait mis en place notamment la gratuité des protections menstruelles à l'université et la gratuité de la contraception pour les jeunes femmes de moins de 25 ans.
Présidentielle française 2022. Et oui, Marine Le Pen expulserait les chômeurs étrangers, même avec des enfants français. Elle veut cependant rendre gratuits les voyages en train pour les jeunes de 18 à 25 ans. Et le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, voit une probabilité d'être au second tour. Le concept de remigration de Zemmour, qualifié d'anti-républicain et injuste par les Français. Et Marine Le Pen prise à partie lors de son passage à la Guadeloupe. Elle et son équipe portent plainte. Selon une source, le seul candidat qui a présenté un programme détaillé et adapté à chaque département d'outre-mer est le candidat Emmanuel Macron. Et à quelques jours du premier tour, un nouveau scandale vise le président candidat Emmanuel Macron. Mackenzie et Alstom, deux scandales pour faire tomber la Macronie. Pourquoi certains veulent à tout prix la tête du président Macron? Quand l'information et la culture sont trop souvent traitées comme des marchandises, quel rôle les citoyens peuvent-ils encore jouer pour faire vivre le pluralisme et le débat? Cette question appelle une réponse qui ne saurait attendre. Théophile Kouamou, du Média du Peuple, culturel et francophone, humaniste et antiraciste et pro-LGBT, propose de rappeler et de revenir aux sources des affaires qui ont éclaboussé la Macronie. Reportage.
Totalement ahurissant de voir que l'État continue de manière totalement non éthique, sans aucune morale, à soutenir une industrie pharmaceutique délinquante.
On a naturellement tendance à penser que les responsables du laboratoire Servier ont dissous leur activité ou alors se sont tenus à carreau pour éviter que le grand public se souvienne de leur turpitude. Mais en réalité, non. Les dirigeants du laboratoire Servier font même partie des grands bénéficiaires de l'opération de distribution d'argent public à des puissants intérêts privés que l'exécutif Macron a dénommé Plan France Relance. Le canard enchaîné va encore plus loin dans la mise en lumière de ce qui est en réalité un nouveau scandale. L'hebdomadaire révèle que la subvention de 800 000 euros accordée à Servier avait pour objectif de relocaliser la production de médicaments d'intérêt thérapeutique dans le domaine cardiovasculaire. Le problème est que deux des cinq médicaments du laboratoire Servier retenus dans le plan France Relance sont jugés par la Haute Autorité de Santé, explique le canard, soit complètement nuls, soit dangereux pour la santé. On ne peut donc pas parler d'intérêt thérapeutique. Souvenons-nous l'affaire du Mediator, un des plus gros scandales sanitaires de l'histoire contemporaine en France. C'est l'histoire d'un médicament qui a continué à être distribué et prescrit jusqu'en 2010, alors que les risques associés à son administration étaient connus depuis au moins 1997.
18 mois de procès, plus de 500 heures d'audience et ce matin un jugement rendu derrière cette porte du tribunal correctionnel de Paris. Les laboratoires Servier viennent d'être reconnus coupables de tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires. À son domicile, cette victime découvre le jugement. Pendant 15 ans, il a pris du Mediator pour soigner son diabète. Il a même été victime d'une crise cardiaque. Plus de 6500 parties civiles étaient représentées à ce procès. Le Mediator, un médicament désormais officiellement associé à un scandale sanitaire. Des pilules qui auraient fait jusqu'à 2100 morts en France. Les laboratoires Servier ont commercialisé le médicament pendant plus de 30 ans. Un antidiabétique, davantage prescrit comme un coupe-faim.
Après cette terrible affaire, on a naturellement tendance à penser que les responsables du laboratoire Servier ont dissous leur activité ou alors se sont tenus à carreau pour éviter que le grand public se souvienne de leur turpitude. Mais en réalité, non. Les dirigeants du laboratoire Servier font même partie des grands bénéficiaires de l'opération de distribution d'argent public à des puissants intérêts privés que l'exécutif Macron a dénommé Plan France Relance. Un plan qui vise, nous explique-t-on, à réindustrialiser le pays, ce qui a bien entendu ulcéré Irène Frachon, la pneumologue et lanceuse d'alerte qui avait révélé à l'époque le scandale du Mediator. Elle était la semaine dernière sur le plateau de RMC.
C'est totalement ahurissant de voir que l'État continue de manière totalement non éthique, sans aucune morale, à soutenir une industrie pharmaceutique délinquante. Est-ce que vous imaginez, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la défiance des Français à l'égard de l'industrie pharmaceutique, à l'égard des messages gouvernementaux, par exemple, pour soutenir la vaccination. Et on ne peut que comprendre cette défiance lorsque l'on réalise que le gouvernement continue à soutenir une industrie, un industriel responsable de la mort de milliers de concitoyens. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il faut savoir que Servier coûte extrêmement cher à l'État et que Servier actuellement attaque l'État devant la justice pour récupérer 30% des indemnisations qu'il est obligé de verser aux victimes du Mediator.
Donc d'un côté, il demande cela et de l'autre, l'État va lui donner donc un certain nombre de millions.
L'État finance un industriel qui s'est attaqué à ses concitoyens et qui l'attaque lui-même pour récupérer encore plus d'argent, qui nie sa responsabilité et qui en plus, actuellement d'ailleurs, licencie, agit et provoque des mouvements sociaux.
Dans sa dernière édition, le Canard enchaîné va encore plus loin dans la mise en lumière de ce qui est en réalité un nouveau scandale. L'hebdomadaire révèle que la subvention de 800 000 euros accordée à Servier avait pour objectif de relocaliser la production de médicaments d'intérêt thérapeutique dans le domaine cardiovasculaire. Le problème est que 2 des 5 médicaments du laboratoire Servier retenus dans le plan France Relance sont jugés par la haute autorité de santé, explique le Canard, soit complètement nuls, soit dangereux pour la santé. On ne peut donc pas parler d'intérêt thérapeutique. Pourquoi l'exécutif Macron fait-il donc ce choix ? Mystère. Les analystes pourront toujours évoquer un ancien proche d'Emmanuel Macron qui avait été son conseiller santé pendant la campagne 2017, Jean-Jacques Mourad.
Et il se trouve que le cardiologue Jean-Jacques Mourad connaît bien Servier. Regardez le nombre d'interventions qu'il a réalisées pour le laboratoire. C'était entre 2013 et 2016, plus de 66 interventions, soit en moyenne 1 à 2 interventions par mois. Avec une telle fréquence, on peut effectivement s'interroger sur son conflit d'intérêts s'il conseille Emmanuel Macron pour la santé.
Jean-Jacques Mourad, présenté comme un gros lobbyiste de Servier, avait dû démissionner avant l'arrivée à l'Élysée. Plus près de nous, en 2020, l'hebdomadaire Marianne révélait que parmi les médecins chargés de conseiller le chef de l'État sur la stratégie Covid, plusieurs ont des liens financiers très forts avec les grands laboratoires.
Les fausses informations, tout le monde en parle.
Fake news.
Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout pour vous tromper.
Retrouvez l'édition spéciale d'Info ou Intox lundi dans Paris Direct sur France 24 et France24.com.
Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Les libertés, on veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières.
Oh.
Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sang. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en revant très vite, sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Nanana. Prépare un voyage et on se jette dans l'eau vide. Non.
Vous écoutez Popouri Show, CUT 89,5 FM, Toronto, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et oui, dimanche prochain, notre ami Monsieur Gérard Poupé nous donne rendez-vous à une cérémonie de commémoration, 105e anniversaire de Vimy, dimanche à 10 avril à 10h, à l'ancien hôtel de ville de Toronto, pas très loin du grand magasin La Baie et coin des rues Queen et Baie, c'est le métro Queen. En ces temps qui courent, nous avons plus que jamais besoin de nous rappeler de ceux qui sont tombés au combat. Et je vous propose la bataille de la crête de Vimy, racontée par l'historien Yves Lemanner.
Alors le 9 avril 1917, à 5h30, les troupes britanniques partent à l'assaut autour d'Arras. Au nord de la zone, ce sont des troupes canadiennes. Au centre, des troupes anglaises, écossaises et au sud, des australiens. Cette offensive, elle a été extrêmement bien préparée pendant plusieurs mois. Les troupes britanniques ont amené près du front des masses de matériel, des masses de munitions. Ils ont installé des campements gigantesques dans une cinquantaine de villages à l'arrière du front. Et surtout, ils se sont livrés à des travaux souterrains extrêmement importants. Ils ont creusé des tunnels d'accès sous le No Man's Land de la crête de Vimy. Ils ont aménagé les carrières souterraines de la ville d'Arras pour héberger jusqu'à 24 000 soldats, de façon à être protégés de l'artillerie pendant la phase préparatoire. Il y a également des raids qui sont menés sur les lignes adverses pour connaître les troupes qui sont en face, des milliers de photographies aériennes pour établir des cartes précises, et surtout un bombardement préparatoire qui est mis en œuvre pour affaiblir les défenses allemandes. Alors donc à 5h30 le 9 avril, les troupes sortent des tranchées, sortent des galeries souterraines et se lancent à l'assaut derrière un barrage roulant, c'est-à-dire des lignes d'obus qui progressent toutes les 3 minutes de 100 mètres, de façon à ce que le terrain adverse soit totalement anéanti par le déluge d'acier qui s'abat. Les soldats avancent, puis un autre mouvement d'obus, puis une avancée des soldats. Et rapidement, au bout d'une journée, les Canadiens ont été en mesure de prendre l'intégralité de la crête de Vimy, de 2,5 km, 3 km, ce qui est quelque chose d'exceptionnel à l'échelle de la guerre, parce qu'ils ont atteint tous leurs objectifs, ce qui était très rarement le cas. Alors il faut savoir qu'en 1915, les troupes françaises ont tenté de prendre cet objectif et ils y ont laissé plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans des combats absolument atroces. Les mitrailleuses allemandes en ont fauché des centaines et des centaines sur la crête de Vimy. La différence, c'est qu'en 1917, on est entré dans une guerre de matériel, c'est-à-dire que les armées sont équipées d'artillerie lourde et c'est l'artillerie lourde qui domine le champ de bataille de façon à réduire la résistance des troupes adverses de l'autre côté des tranchées. Donc on est entré dans une bataille de matériel, mais il faut savoir que ça ne suffira pas. Malgré le succès des Canadiens à Vimy, l'offensive britannique devant Arras va échouer. Les Australiens vont être massacrés à Bullecourt et il faudra attendre encore un an et demi et de nouvelles méthodes de combat avec l'emploi des chars d'assaut, avec l'emploi des avions, avec l'arrivée en masse des renforts américains pour que les Alliés finissent par l'emporter.
Commémoration du 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, du 9 au 12 avril 1917, dans le nord de la France. Commémoration organisée cette année par le comité Vimy Toronto 2022. Le 9 avril 1917, une première vague de Canadiens avançant derrière un barrage roulant. Même si cette tactique d'artillerie assurait un certain couvert, nos soldats étaient quand même exposés à des tirs de mitrailleuses ennemies. Pour commémorer le 105e anniversaire de la bataille de Vimy, le comité Vimy Toronto 2022 vous donne rendez-vous dimanche 10 avril 2022 à 10h au 55 au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. C'est le métro Queen. Pour plus de renseignements, Monsieur Gérard Poupé-Hill du comité Vimy Toronto 2022. Vous pouvez le joindre par courriel au ggpoupéhill@gmail.com. Tous les détails sont sur notre site web popourichaud.com. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy du 9 au 12 avril 1917. Non plus jamais ça. 100 000 Canadiens participaient à la bataille de la crête de Vimy. Plus de 10 600 Canadiens blessés. 3 600 y laissèrent leur vie. Le courage, la bravoure, l'abnégation des vétérans est une source d'inspiration. N'oublions jamais. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy dans le nord de la France. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre est aux portes de l'Europe. Nos pensées vont aux populations civiles, à familles pauvres et personnes vulnérables en Ukraine. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, dimanche 10 avril 2022, à 10h, au 55, au Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto, Metro Queen. Tous les détails sur popourichaud.com. 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Non plus jamais ça, non plus jamais la guerre.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Monsieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise.
Car c'est d'amour dont il est question. Celui que je porte à Célimène. Faites-moi le cheval.
Ah non, 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 pas le cheval.
Je veux être au sommet de la perfection.
« 2022 est l'année de Molière, l'un des plus célèbres dramaturges français. Il est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde. Pourquoi parle-t-on encore de lui 4 siècles plus tard ? Quand et comment son œuvre est-elle arrivée en Afrique ? Molière l'Africain, est-ce possible ? Des éléments de réponse avec nos correspondants et comédiens en Europe et en Afrique tout au long de l'année 2022, alors soyez-y. Popourri Show, 35 ans déjà. On est toujours bien ensemble.
Francophonie et diversité. Popourri Show enquête.
Pourquoi des élèves issus de plus de 30 familles noires auraient été placés dans un programme de soutien linguistique à Ottawa sans le consentement de leurs parents ? C'est ce qu'a rapporté The Globe and Mail dans un article publié jeudi 24 mars. Les familles ne l'auraient appris que 2 mois après la rentrée scolaire, lors de la remise du premier bulletin, selon Charlene Grant, responsable du plaidoyer chez Parents of Black Children, l'une des nombreuses organisations à défendre les familles. Et oui, certains Québécois, franco-ontariens, auditeurs et même des anciens fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario sont choqués, en colère. À vous la parole. Que pensez-vous de l'approche de cette école du Conseil scolaire public francophone à Ottawa? Écrivez-nous en toute confidentialité à popourri@cut.fm. Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto, témoin privilégié de la francophonie depuis plus de 35 ans au Canada et dans le monde.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. 35 ans déjà, on est si bien ensemble. Et oui, vous êtes plus de 38 000 personnes à travers le monde à nous suivre depuis le mois de février 2022. Merci du fond du cœur. Avant de passer au journal d'Haïti et des Amériques, quelques brèves. Le Canada qualifié pour la Coupe du Monde de soccer avec une victoire de 4-0 dimanche dernier contre la Jamaïque. Et oui, bravo à l'équipe du Canada. L'Afrique face au risque de crise alimentaire avec la guerre en Ukraine. Côte d'Ivoire, troisième effondrement meurtrier en 30 jours à Abidjan. Le mur d'un immeuble en construction s'est écroulé samedi dernier dans le quartier populaire d'Abobo. Un enfant de 6 ans décédé. Ces effondrements ont beaucoup choqué la population et le phénomène inquiète. France 24 s'est rendu sur place. La communauté autochtone, les Métis et le pape ont parlé de vérité, de réconciliation et de guérison lundi dernier à Rome. Québec, des salaires de 58 300 dollars à 72 500 dollars par mois proposés à des cuisiniers mauriciens. Du journal Alter Press Haïti, mise en garde contre une tentative d'installer un régime dictatorial à travers une nouvelle constitution en Haïti. Je vous rappelle que le mardi 29 mars marquait le 35e anniversaire de la constitution haïtienne. Sénégal, le grenier du Sénégal, en quête d'eau. En France, élection présidentielle 2022, surmonter la fatigue démocratique. Candidats, médias et citoyens ont leur responsabilité dans cette dangereuse apathie. Un article du journal Le Monde. L'île Maurice dévoile les atouts de ses services financiers virtuels. C'était dans le journal Express de cette semaine. Et à ne pas manquer un entretien exclusif avec Mr. Love, Ludovic Lamarck, un artiste mauricien incontournable sur la scène internationale qui est actuellement à Toronto. Il sera à notre antenne vers 12h35. Mais pour tout de suite, place au journal des Amériques et le journal de l'Outre-mer.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Le journal maintenant d'Haïti et des Amériques, c'est avec vous Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Magali, merci, les 9h10 à Port-au-Prince. Informer, éduquer et sensibiliser, c'est le credo d'Ali Bopost, jeune média haïtien qui innove et dénote dans le paysage journalistique du pays. Son directeur de la publication est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ralph Thomas Saint-Joseph.
Bonjour.
Comment informer autrement en toute indépendance dans un contexte d'insécurité? On en parle ensemble dans quelques minutes. On va aussi aujourd'hui se pencher sur la situation de la justice au Guatemala et puis sur la pêche illégale en Guyane. Ce sera avec vous Benoît Ferrand.
Oui, le président de la collectivité de Guyane a constaté le phénomène de ses propres yeux au large d'Iracubo où il a croisé 14 navires pêchant illégalement dans les eaux du département.
Le journal de la première, c'est dans 15 minutes. Avant tout cela, on fait un crochet par la Colombie.
RFI, la radio del mundo.
Port-au-Prince. 89.3 FM.
Haïti et son actualité que couvrent nos confrères du Nouvelliste, d'Alter Press. Vous les entendez chaque semaine ici même. Vous nous entendez aussi régulièrement citer le travail du site Haïbopost, média haïtien qui a vu le jour en 2015 et dont le directeur de la publication est de passage à Paris. Il nous fait le plaisir d'être notre invité de nouveau. Bonjour Ralph Thomas Saint-Joseph.
Bonjour.
Haïbopost, c'est donc 24 employés, 16 journalistes parmi eux, en prenant en compte les équipes audiovisuelles qui proposent de l'enquête, du reportage, des sujets en tout genre, de la politique, de la société, tout domaine. Quelle est finalement la philosophie d'Haïbopost?
La philosophie d'Haïbopost, c'est la philosophie de tout média responsable. C'est d'apporter de l'information de qualité. Et nous insistons beaucoup et pour ce faire sur les contenus explicatifs parce que Haïbopost prend en compte le fait qu'on produit en Haïti dans un contexte où on a une population avec un taux considérable d'analphabétisation et nos contenus sont produits en grande partie, surtout nos contenus vidéo, en langue créole, pour être accessible à davantage de personnes.
Il y a cette volonté d'éduquer aussi.
Exactement, parce que lorsqu'on a lancé le projet éditorial de Haïbopost, nous avions pris pas mal d'exemples sur des médias étrangers. Donc Haïbopost, c'est un peu un mélange de Vox, de Huffington Post, Donc c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de contenu avec du motion graphics, de l'animation graphique.
Pourquoi c'est important aujourd'hui dans le paysage médiatique, mais aussi politique, institutionnel d'Haïti, avec des pouvoirs, des institutions défaillantes, voire inexistantes? Pourquoi ce type de média, d'information est-elle importante, sinon primordiale?
D'abord parce qu'il faut davantage de démocratie en Haïti. Et deuxièmement, il y a un effet générationnel. Moi, ça fait 11 ans depuis que je suis journaliste, mais je n'avais jamais pensé à être journaliste dans ma vie. En fait, c'est à la faveur du tremblement de terre en 2010 que je suis devenu journaliste. Et en pratiquant le métier, j'ai vu les failles de la presse en Haïti. Et moi,
qui sont, selon vous?
Par exemple, l'absence d'informations de qualité. Et il y a aussi la façon dont les politiques occupent l'espace public, les médias, notamment les radios. Donc, à un certain moment, il me fallait faire un choix. Et je ne voulais pas reproduire ce que j'ai vu. Donc, je voulais pratiquer le type de médias que je fantasmais. Donc, et avec l'équipe d'Aibo Post, on a lancé la plateforme et c'est devenu ce qu'elle est aujourd'hui.
Le média qu'on connaît aujourd'hui, vous parlez des politiques qui parasitent, selon vous aussi, le travail des journalistes, sous quelle forme, comment?
Sous quelle forme? Parce que moi, j'ai grandi en Haïti et toute ma vie, j'ai vu qu'il y a un État totalement irresponsable. Il y a des élites qui ont délaissé le pays. Donc, et l'effet générationnel dont je parlais, c'est qu'il y a une génération de jeunes en Haïti qui souhaitent voir les choses autrement. Et c'est pas sans raison que c'est cette même génération qui était au cœur des grandes protestations contre la corruption récemment dans le pays. Et cette génération a particulièrement utilisé Internet. Donc, on est une génération qui est en train de tout remettre en question, toutes sortes d'héritages qui ne nous ont pas été utiles. Et c'est dans cette optique-là, et je crois que Aibo Post a pris naissance, et c'est en rupture par rapport à ce qui existait autrefois et qu'on questionne.
Donc une autre vision avec d'autres moyens, les nouveaux moyens, des nouveaux médias. Et c'est aussi pour ça que Aibo Post est en accès libre. Aucun contenu aujourd'hui n'est payant. C'est un point d'honneur que vous vous êtes fixé.
Oui, c'est un point d'honneur et ça correspond tout à fait à la réalité en Haïti parce que on a une population qui est très peu bancarisée. Il y a très peu d'Haïtiens qui ont accès à une carte de crédit. Donc, et aller vers le modèle de subscription,
de souscription,
ça aurait
été
compliqué.
Vous venez de passer plusieurs années là aux États-Unis, c'est pour ça ce franglais, mais on vous pardonne évidemment.
Ouais. Dès que je vais parler de médias, de technologie, je vais utiliser beaucoup de franglais.
Aucun souci.
Donc et le modèle de souscription n'aurait pas été approprié pour nous autres en Haïti. Et puis, on voulait que nos contenus soient accessibles au plus grand. Donc, c'est la raison pour laquelle jusqu'ici, et ça va demeurer pour toujours, les contenus d'Aibo Post seront toujours gratuits.
Est-ce que néanmoins, le modèle économique d'Aibo Post est pérenne, viable, ou il va falloir peut-être penser à d'autres formes de financement, dites-nous?
Actuellement, on a un modèle économique qui nous fait poser beaucoup de questions parce que, on a créé un bras financier pour Aibo Post, qui est Aibo Studio. C'est un studio de production de contenu multimédia et dont les revenus servent à payer la salle de rédaction. Mais à cause des crises politiques, on n'a pas pu atteindre nos objectifs ces trois dernières années en Haïti. Donc, et ce que j'ai fait récemment avec New York University, j'ai développé un programme de membership.
D'adhésion.
Et dans les mois à venir, on va développer un programme d'adhésion à Aibo Post. L'adhésion, c'est un contrat avec l'audience où des gens on parle d'audience, une partie de l'audience de Aibo Post va contribuer financièrement pour que la plateforme reste vivante, mais Et il faut que les contenus demeurent gratuits à tout le monde.
Une forme de mécénat, finalement, de la part de vos lecteurs qui en ont les moyens, pour garantir aussi cette indépendance qui vous est chère et toute influence, mais aussi influence économique. Hein. Il n'y a pas de publicité.
Jusqu'à présent, il n'y a pas de publicité. Et jusqu'à présent aussi, on a fait l'effort d'avoir des followers,
des suiveurs. Moi-même, j'ai du mal à traduire le franglais.
Des gens
qui vous suivent.
Ouais, on a des gens qui nous suivent de manière organique. Et puis, c'est à notre avantage aussi qu'on n'a pas eu de publicité sur la plateforme jusqu'à présent, parce que ça nous donne cette indépendance de conduire ces investigations, notamment sur les dossiers de corruption qui impliquent pas mal et d'entreprises et de personnalités politiques en Haïti.
Et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes aussi la cible de menaces, la cible aussi des kidnappings qui gangrènent Haïti. Comment est-ce qu'on travaille concrètement en tant que journaliste alors que certains de vos confrères ont été enlevés, tués voilà. Avec cette épée de Damoclès, comment fait-on pour travailler ?
Eh bien, bon, on travaille avec les risques du pays. Moi, j'ai grandi en Haïti dans une situation d'extrême violence. Moi et toute ma jeunesse, j'ai vécu de la violence en Haïti. On peut dire qu'on a pu s'adapter à un certain moment, mais le niveau de violence qu'on voit actuellement en Haïti, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Le nombre de kidnappings, les assassinats. Et le niveau de désengagement de l'État, c'est du jamais vu. Donc, par moment, ce qu'on fait à Ibopos, dépendamment de la période, on s'abstient d'aller dans nos bureaux. On travaille remotely,
à distance.
Oui. Et puis, il y a certains d'entre nous qui se sont fait agresser. Notre actuel éditeur en chef a été kidnappé. Sa voiture a été volée. Et bon, au final, il a été retrouvé entre les mains d'un actuel membre des forces armées d'Haïti qui a été libéré par la police, et malheureusement, et ça c'est davantage de pression, et ce qui fait que bon, pendant un certain temps, il n'a pas pu aller au bureau, donc c'est difficile, c'est compliqué.
C'est difficile, et pourtant vous me disiez en préparant cette interview que ça ne démotive pas les candidatures. Il y a encore des gens, des jeunes journalistes qui veulent travailler, être journalistes, et notamment à Ibopos.
Oui, parce que Ibopos est devenu une marque, et c'est un média jeune, et dirigé par des jeunes, produit par des jeunes, donc on est considéré actuellement comme un espace qui légitime un certain discours en Haïti. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a certains qui estiment que c'est une valeur de travailler chez nous à Ibopost.
Et à très juste titre, on invite évidemment tous nos auditeurs à se rendre sur ibopost.com pour découvrir votre travail. Ralph Thomassin Joseph, donc directeur de la publication de ce site à Ibopost, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu dans nos studios ici à Paris. Il est 14h26.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Michael.
Le président de la collectivité territoriale l'a constaté de ses propres yeux, la pêche illégale sévit encore et toujours au large de la Guyane.
Oui, Gabriel Serville, dimanche dernier, est monté à bord d'un petit bateau de plaisance qui l'a emmené faire un petit tour au large d'Irakoubo. Et là, il a croisé non pas un, non pas deux, mais 14 navires pêchant illégalement dans les eaux guyanaises. 14 tapouilles, comme on dit là-bas. Écoutez Gabriel Serville au micro de Laurent Marot.
Moi, ce que je constate, c'est que les gars sont là en train de pêcher de manière totalement décomplexée. Ils sont en train de bosser, c'est leur job. Mais ça laisse à s'interroger sur les méthodes que l'État utilise véritablement pour protéger les ressources halieutiques de la Guyane, puisque très régulièrement on nous fait comprendre qu'il y a une surveillance des côtes, et là on se rend bien compte qu'il n'en est strictement rien. La question reste toujours posée de savoir comment on fait et quelle énergie positive on va déployer avec quels moyens supplémentaires pour pouvoir protéger les côtes, parce que là, ce sont des ressources halieutiques qui sont pillées, véritablement, comme les lors sur le territoire de la Guyane. Et je tenais vraiment à venir sur place, me rendre compte par moi-même de la façon dont les choses se passent.
Direction maintenant la Guadeloupe avec les planteurs qui réclament l'ouverture rapide de la campagne sucrière, ouverture pour l'instant bloquée par les opérateurs de coupe et de transport qui réclament une augmentation de 3,60 € par tonne, augmentation que les producteurs ne veulent pas prendre en charge. Philippe Escher est président d'une coopérative dans le Nord Grande Terre, il est au micro de Josiane Champion.
Nous sommes d'accord qu'il y ait un surcoût lié au gasoil et tout ça, mais le paysan, l'agriculteur aussi, a subi et subit un surcoût lié aux intrants. Une tonne d'engrais est passée de 600 euros à 1300 euros. Donc pour vous dire que nous aussi, planteurs, nous subissons des augmentations. Ce n'est pas sur le planteur qu'on doit aller prendre les 3,60 euros. On est en train d'entraver une récolte sucrière qui aurait dû être commencée. Nos adhérents, nos planteurs sont en difficulté. Il va pleuvoir, il pleut déjà dans le Nord Grande Terre. Donc face à ça, c'est encore le planteur qui sera impacté à cause de la mauvaise volonté, à cause de personnes qui se disent opérateurs et qui sont aussi des gros planteurs. Donc il faut faire un choix dans tout ce capharnaüm. Donc moi, président de la CUMA Nord Grande Terre, je dis aux gens, faisons le pari de l'intelligence. Mettons-nous ensemble et allons frapper aux bonnes portes, mais pas dans la porte des planteurs.
Et la campagne sucrière 2022 n'est donc pas encore ouverte. À Marie-Galante, nous en parlions hier, et en Guadeloupe où l'usine s'appelle Gardel, et non pas le Galion, comme je vous le disais hier. Le Galion, c'est en Martinique. Bon après-midi, Michael, à demain.
Faute à vous à moitié pardonnée. Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Ainsi se termine notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur RFI Pure Radio et commenter l'actualité sur notamment Twitter.
France 24 et La Première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et La Première s'associent pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Et oui, le livre du jour aujourd'hui, Dias thérapeute et homme léopard. La plume de Fété Kimbiopi immortalise l'Afrique d'antan à travers son grand-père. Fété Kimbiopi est directrice générale de Sofifran, organisme communautaire qui dessert la communauté immigrante dans la région de Niagara en Ontario. Dias thérapeute et homme léopard, un livre qui fait le récit de la vie du grand-père de Fété Kimbiopi, originaire du Congo. Comme le titre l'indique, il était un homme léopard, c'est-à-dire membre d'une de ces confréries initiatiques qui existent partout en Afrique et au sein desquelles se transmettent des connaissances diverses, des pratiques magiques, pratiques très courantes à cette époque. Dias thérapeute et homme léopard, les plus jeunes pourront avoir une idée de cette Afrique mystérieuse qui elle aussi change à grande vitesse. Dias thérapeute et l'homme léopard, disponible sur Amazon, de Fété Kimbiopi, directrice générale de Sofifran et femme très engagée au sein de la francophonie ontarienne. Vous retrouverez tous les liens sur popourrichaud.com.
Événement. France 24 vous fait vivre l'élection présidentielle française. Cette année, le président Macron sera-t-il réélu pour 5 ans ? Ou sera-t-il battu par l'un des candidats déterminés à le faire tomber ? France 24 couvre la campagne électorale et va à la rencontre des Français, des candidats et de leur soutien. Suivez l'élection présidentielle française tous les jours sur France 24 et France24.com.
Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast « Quoi de neuf à les cafés du CREFO » et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Potpourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Potpourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Potpourri Show en nous envoyant un message à potpourri@cut.fm ou visitez notre site web potpourrishow.com. Potpourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Madame, messieurs, chers amis des musiques des îles, un des chanteurs, artistes, auteurs, compositeurs mauriciens le plus apprécié, Ludovic Lamarck, alias Mr. Love, actuellement en tournée en Europe, a fait un détour et sera pour la première fois sur scène à Toronto. Soleil pas encore levé. Ah oui, un concert unique. Un grand bal mauricien le samedi 9 avril 2022 de 20h à minuit à l'Aroga de notre place, 1780 boulevard Medovel à Mississauga, en collaboration avec Sega Sound Promotion, Kiltianus Îles et les artistes des îles. Réservez vos billets, allez galouper, galouper immédiatement en visitant le site web segasound.com. Après Londres, l'Italie, Dublin, Montréal, où il a joué à guichet fermé. Oui, il faut le faire. CUTFM et la communauté mauricienne vous y attend. Samedi 9 avril, dès 20h, à l'Agora de notre place, 1780 boulevard Medovel, à Mississauga. Deux paires de billets, je dis bien deux paires de billets gratuits pour les membres de la radio ou réservés au segasound.com. Le 9 avril, Mr. Love de l'île Maurice, un concert unique. Découvrez la diversité, les multiples cultures de l'île du Dodo, la clé de l'océan Indien, les mets délicieux yam 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 de l'île Maurice, pays membre de la francophonie. Allez, pour plus d'infos, popourishow.com ou pour gagner les billets gratuits, popourri@cut.fm. Dégazé, n'a pas tardé. Un tam tam, les vibrations avec Mr. Love.
Si mon préfère glisser, mais glisser, aller. Pour qui mon capable préserve mon esprit en paix. Laisse-moi faire mon la route, oui, dans l'honnêteté. Moi, j'ai envie de vivre dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi, fatigue-moi. Moi, mon préfère glisser, mais glisser, aller.
Et oui, c'était Mr. Love. Une première à Toronto le 9 avril, à ne pas manquer. Et oui, je vous invite, madame, monsieur, au voyage. Cadencez avec moi. Et oui, dépaysement total. Destination Île Maurice, dont la capitale est Port-Louis. Avec notre invité du jour, Ludovic Lamarque, Mr. Love. Mr. Love, l'artiste mauricien, un artiste incontournable du moment. Il est en tournée européenne, il a connu un grand succès à Montréal, une première au Canada. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'il vient nous rendre visite en hiver? Mais pourquoi? Eh oui, sera au rendez-vous samedi 9 avril à 20h, un bal mauricien à ne pas manquer. Et nous avons deux paires de billets. Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm ou allez sur notre site popourrishow.com. Et on m'a dit aussi qu'il va avoir de la bouffe mauricienne. Oh. Alors c'est un artiste remarquable qui connaît un très grand succès à Maurice, en Europe. Il jongle avec plusieurs styles de musique. Ses chansons, en créole, en français, ont une sonorité particulière, des mélodies captivantes et des textes profonds qui parlent des réalités de la vie, de l'amour, au rythme très ambiancé du Maurice. Eh oui, la plage, le soleil, la mer. Ces clips captivants sont extrêmement bien produits et réalisés. Ça nous donne envie d'entrer dans son univers. Il est à son 10e album. Il est sur toutes les plateformes numériques. Vous retrouverez tous les liens sur notre site popourishow.com. Mais pourquoi a-t-il choisi de nous rendre visite en hiver? Allez, on appelle tout de suite à Montréal. Ludovic Lamarque, Mr. Love. Je pourrais parler à Ludovic Lamarque, s'il vous plaît.
Lui-même, c'est lui-même. FM.
Bonjour, ici Eric Kader de CUTFM Toronto. Et bienvenue chez nous, votre nom d'artiste, je rappelle aux auditeurs, est Mr. Love, the one and only Mr. Love à Toronto, bientôt. C'est tout un plaisir hein, de vous accueillir pour la première fois à CUTFM Toronto. Et mon pou essaie cause un petit peu créole, mais vous connaissez mon créole un peu rouillé. Hein.
Ça se comprend pas.
Alors, vous êtes à Montréal en ce moment, vous serez en concert à Mississauga le samedi 9 avril, un grand bal mauricien, accompagné par Kilty and Uzil, collaboration avec Sega Sound Promotion et Artistes des Îles. Ambiance garantie, c'est à l'Agora de Notre-Dame Place, notre place à 1780 boulevard Meadowvale à Mississauga, et tous les détails sont sur notre site. Et justement, qui sont ces artistes des îles et qu'ils tirent nos îles?
J'ai pas entendu votre question, s'il vous plaît.
Les groupes qui vont vous accompagner, ouais. Est-ce qu'ils sont, ouais. Ils sont canadiens? Ils sont en direct de Maurice?
Ils sont justement des Mauriciens migrés ici. Donc, il y a aussi un mélange. Il y a un mélange de Canadiens, Mauriciens, et ici, la diaspora mauricienne, on va dire comme ça.
Ah oui, donc vous devez avoir des répétitions avec eux.
Effectivement, dès que j'arrive là-bas la semaine prochaine,
oui.
Quand je serai en déplacement de Montréal pour Toronto, dès que j'arrive à ce moment-là, il y aura une série de répétitions avec l'orchestre.
Ludovic Lamarque, vous savez, il fait 29-30 degrés à l'île Maurice cette fin de semaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Montréal, à Toronto, et surtout en hiver?
Ouais, mais c'est quand même une belle expérience. Et je sais que la température n'est pas la même, mais bon, c'est le Canada, hein, c'est Toronto, et ça fait toujours plaisir de rencontrer la diaspora mauricienne et aussi de partager notre culture, parce que vous savez, c'est justement la culture mauricienne qui a quand même cette chaleur, ce côté très généreux, justement. Et c'est ce qu'on a envie de partager justement avec la communauté mauricienne qui nous attend le 9 avril, et pourquoi pas aussi avec les Canadiens.
Ouais. Vous savez, quand mon papa est venu ici, il est décédé malheureusement, mais quand il est venu ici pour la première fois dans les années 90, c'était au mois de juillet. Vous savez, il y a beaucoup de festivals à Toronto au mois de juin, juillet. Et puis il m'a dit, qui a dit qu'il neige à Toronto? Il fait tellement chaud. Il pouvait pas croire qu'il y a aussi un hiver, mais l'été, il fait très beau, donc j'espère que un jour, on va vous voir sur les scènes de Toronto, parce qu'il y a plein de spectacles en plein air, hein, à Toronto.
Tout à fait. En fait, c'est dans nos projets futurs.
Ouais.
Pour l'instant, vu que après les 2 ans sans activité dû à la Covid, donc on était un peu bloqué parce que le projet s'était déjà établi depuis 2019-2020. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec l'arrivée du Covid. Mais on a voulu justement relancer le projet dès que les restrictions ont été enlevées. Et malgré ça tombe en plein hiver, mais on a voulu profiter quand même de cette occasion. Et pourquoi pas une prochaine fois, peut-être l'année prochaine, venir en plein été pour savourer un petit peu la chaleur, parce que je sais qu'ici, en été aussi, il fait très très chaud.
Oui, en effet. Alors, je rappelle aux gens que l'île Maurice, Toronto, le Canada, c'est 15 000 milles hein, de distance, et le Covid a frappé quand même très durement l'île Maurice. C'est une petite île qui, l'économie se base sur le tourisme, et le tourisme a été terriblement affecté hein, avec Covid. Et vous, en tant qu'artiste, en tant que Ségatier, est-ce que ça a affecté votre vie? Parce que, je veux dire, la vie n'est pas si simple à l'île Maurice. Il n'y a pas des aides nécessairement comme on retrouve ici au Canada ou en Europe. Ouais. Est-ce que vous avez été affecté personnellement par Covid?
Oui, tout à fait. Et on a été tous affectés par Covid. Surtout nous, les artistes de l'île Maurice, vu que, voilà, on n'a pas d'autres moyens, et pendant les 2 ans, nous étions quand même sans activité, pas de prestations, et même jusqu'à maintenant, il y a toujours des restrictions, on n'a toujours pas droit à faire des concerts, à faire des activités, sauf des petites communautés de 50 personnes, mais pas plus,
ouais.
Et c'est quand même très compliqué, et donc voilà, c'est pour ça qu'on a saisi quand même l'occasion de pouvoir justement aller en tournée, parce que d'ailleurs, que ce soit ici au Canada, Toronto, Montréal, ou même en Europe, ils ont commencé à ouvrir les frontières, et aussi les restrictions sont moins sévères. Oui. À Maurice, et du coup on en profite, mais on espère que Maurice aussi suivra un petit peu le train, comme on dit, et reprendre sa vie normale, justement avec l'arrivée des touristes, et aussi les activités reprennent comme ils étaient auparavant.
On est bien content qu'ils vous viennent visiter nous. Est-ce que, bon, alors si on comprend bien, c'est un tour du monde qui vous fait faire là, des concerts à Montréal, un concert à Toronto, vous étiez à Londres, Dublin, l'Italie. Est-ce que c'est votre première visite à Montréal et Toronto?
Oui, au Canada, Montréal, Toronto, oui, c'est ma première visite, et c'est une tournée mondiale, effectivement, on peut dire ça comme ça. Et donc j'ai démarré en Angleterre il y a 2 semaines. En Angleterre, j'ai eu 3 concerts déjà en Angleterre, à Londres. J'ai fait Dublin en Irlande, ensuite direction ici. Après là, je redescends en Angleterre, j'ai 2 dates encore, 2 prestations en Angleterre, et par la suite, pour la Pâques, je serai en Italie le 17 avril pour retourner vers la France.
Et quelle ville en Italie? Quelle ville vous serez en Italie?
Le 17 avril, le oui. Dimanche pour la Pâques.
Et dans quelle ville?
À Catania.
Ah bon, moi j'ai ma sœur qui est à Turin, que je connais bien. Milan, Turin, Toronto. Ouais. Écoutez, parlez-moi un petit peu de votre enfance, parce que pour les gens qui nous écoutent, ils sont pas très familiers avec le Sega, la musique traditionnelle de l'île Maurice. Nous sommes une des rares radios en Amérique du Nord qui joue du Sega, du Segue, de la Maloya, et un de nos amis correspondants que vous connaissez sans doute, Percy Iptong, qui est venu à quelques reprises à Toronto avec le groupe Ménoir et d'autres artistes mauriciens. Ça a été un succès incroyable. Mais pour les gens qui ne connaissent pas tellement la vitalité de cette culture, de cette musique traditionnelle, le Sega, parlez-moi un petit peu de votre enfance rapidement, et comment est-ce que vous êtes tombé dans le monde du Sega?
Ben moi, à la base, j'étais plutôt musicien. Je prenais des cours, des leçons de musique avec un professeur de musique, le défunt Noël Jean, qui est un grand artiste mauricien, grand musicien. Était plutôt, mais voilà, à l'âge de 14 ans, enfin j'ai commencé très jeune, à l'âge de 3-4 ans à peu près, j'ai commencé à jouer de la musique, mais à l'âge de 14 ans, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé de chanter, de l'accompagner plutôt, vocalement, et c'est là que ça a fait le déclic en fait. Je l'ai accompagné sur un titre, et ça a fait le déclic, et tout le monde m'a demandé, mais pourquoi je chantais pas? Pourquoi, voilà, je songeais pas à faire une carrière en chanson. Et je dis, ben ouais, pourquoi pas. Et c'est là que j'ai commencé à écouter les influences telles que Cassia, telles que Carino, et tous les grands, en fait, les grands artistes qui m'ont influencé. Et j'ai commencé à faire mes textes. Et j'ai démarré avec un groupe à l'époque, en 1999, qui s'appelait System R. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler.
Oui.
On a fait pas mal de titres, pas mal de succès. Et c'est là que la carrière a commencé, en fait, depuis 1999. Mais je n'étais pas encore tombé dans le Sega complètement bien comme il faut. Ce n'est qu'en 2009-2010 que j'ai écrit la première chanson, L'Espoir, la chanson de Sega, L'Espoir. Et c'est là que les gens m'ont dit que ouais, mais il faut que je commence à chanter le Sega, parce que ça me va bien, ça touche les gens, et il y a beaucoup de sentiments, etc. Et c'est là que l'évolution a pris son envol.
Ouais. Alors en 2013, Mr. Love et le groupe System R, vous avez produit un album qui a fait un grand boom à Maurice, résonnant même à l'étranger suite au succès de la chanson Tous Sali, un succès qui a fait le tour de la planète, dites-vous, et votre succès vous a ouvert aussi bien de portes, entre autres le Zénith à Paris, ça il faut le faire hein, quand même, et lors d'une nuit de l'océan Indien en 2013, ainsi que la participation à l'émission populaire Popstar en France, un festival en Angleterre devant plus de 10 000 personnes, il faut le faire, hein. C'est pas donné à tout le monde. C'est quoi les ingrédients de votre succès?
En fait, je veux dire que c'est... les ingrédients sont assez simples. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est le travail de bosser et de trouver les simples choses qui sont très difficiles de mettre de nos jours, de trouver des trucs simples. Mais c'est cette communion, cette communication avec le public, de toujours faire plaisir et de toujours faire un travail où voilà, on se sent bien. Oui. Et toute sa vie, justement, qui est quand même un succès mondial, même jusqu'à maintenant, les gens m'en parlent. Même j'ai rencontré des étrangers qui sont venus à Maurice, qui m'ont rencontré. Lorsqu'ils m'ont entendu chanter cette chanson, ils me disent « Ah, mais moi, je suis suisse, moi, je suis allemand, et j'ai déjà entendu cette chanson jouer dans les bars, dans les festivals, etc., et à la radio. » Et ça fait plaisir, surtout la chorégraphie, l'escalier.
C'est ça que j'étais pour dire aux gens. Quand on regarde vos clips, parce que vous en avez beaucoup sur YouTube, oui, vous êtes sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est que il y a un montage, une mise en scène. Vous êtes pas mal comédien, hein, dans l'âme.
Ah mais c'est ça, comme je dis, c'est que moi je travaille beaucoup sur l'aspect communicatif, ouais, ouais, avec le public, l'interaction, qui est très important, parce que moi quand je suis sur scène ou voilà en vidéo, j'aime bien ce côté interaction où je communique avec les gens et les gens aussi sont très réceptifs et un public vraiment voilà, que ce soit dans plusieurs pays, mais on arrive à communier. Mais c'est ça en fait, c'est ça la musique mauricienne, c'est cette chaleur, ce côté très très ambiancé et tout qui ramène ce côté, qui ramène ce soleil dans le visage des gens. Et c'est pour ça moi je travaille beaucoup là-dessus. Et voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de secret, c'est le travail derrière.
Oui, en tout cas, bravo, félicitations. Mr. Love, madame, monsieur, en concert, en exclusivité, un concert seulement à Toronto, deux concerts à Montréal. Alors, samedi 9 avril, un grand bal mauricien accompagné de Kilty and Uzil en collaboration avec Sega Sound Promotion et Artistes des Îles. Ambiance garantie, surchauffée. Mon crâne, nous pouvons un appel pompier là, hein.
Ah ouais, ça va être chaud.
Alors, je rappelle aux gens que vous êtes à votre dixième album, Dimension d'amour, et c'est le titre. Et le Sega typique, les Sega d'antan que je connais bien, parce que moi, je suis de la vieille génération. Vous savez, quand moi, j'ai quitté Maurice, il n'y avait pas Codan, par exemple. Je pense que la culture a beaucoup changé en 40 ans, 42 ans, n'est-ce pas, Maurice?
C'est
Comme toujours, comme fil conducteur dans les Sega, il y a toujours une histoire ou des histoires, un plaidoyer, un chagrin d'amour, des histoires d'amitié. Mais aussi, vers les années 80, 90, il y a eu beaucoup d'artistes mauriciens qui se sont lancés dans des textes assez engagés, reflétant leur état d'âme, la situation sociale, politique, les enjeux que font face à les Mauriciens. Est-ce que Ludovic Lamarque, Mr. Love, est un chanteur engagé? Parce que j'ai un de vos clips que j'aime beaucoup, Jugement coupable, un clip magnifique au rythme du Sega, et en plus c'est toute une mise en scène. Vous avez un message très fort à faire passer dans ce clip, justement Jugement coupable. Comment est arrivé ce clip et est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à vos fans?
Ben moi je suis engagé bon généralement tout court dans la musique. Hein, en gros, et mes messages dans mes chansons, que ce soit un message d'amour, que ce soit un message les chansons engagées même de notre île, il y a pas mal de choses surtout qui parlent de fléaux, qui parlent de tout ce qui se passe dans notre société. C'est très important aussi de faire passer des messages. Et oui, comme vous l'avez dit, c'est un très gros travail aussi qu'on fait derrière. Je suis pas tout seul, j'ai une équipe qui travaille avec moi à l'île Maurice, et donc on est là tout le temps à réfléchir sur la conception des vidéos, sur la conception, sur les textes, comment s'associer les textes et les images pour justement faire traverser le message qu'on souhaiterait faire traverser. Oui. Et c'est un gros travail, c'est vrai que, mais aujourd'hui, ça me permet justement, même pour ceux qui sont à l'étranger, à l'extérieur ou très loin de moi, qui arrivent justement à ressentir ce que moi j'ai envie de faire traverser. Et je pense que c'est fait en fait, on va dire que voilà, on arrive à toucher les gens, et c'est ce qui compte le plus pour moi.
Est-ce que Montréal, vous vous êtes habitué avec la, le langage, les accents, le mouet, le toué, Aster, il y a des ressemblances hein, avec notre créole, n'est-ce pas?
Souper tantôt et tout, et donc voilà, je commence à m'habituer un petit peu après quelques jours, justement, et c'est vrai que c'est marrant au début, on n'arrive pas trop à décortiquer les mots, les phrases, mais à la longue, on arrive à s'adapter, et moi je trouve ça super, et c'est énorme, et eux aussi, ceux qui sont d'ici, quand ils me parlent, ils voient que je suis pas d'ici, donc ils me demandent un petit peu la culture, d'où je viens, etc. Mais on arrive à communiquer et c'est extraordinaire.
Et il y a une grande communauté mauricienne à Montréal. D'ailleurs, c'est sold out hein, pour un de vos concerts à Montréal.
Oui, le concert du 26 est sold out déjà. C'est la raison donc pour qu'on a mis une autre date, une autre prestation.
Wow.
Et parce qu'il y a tellement de demandes, il y a l'engouement et des gens qui sont là. Il y en a qui viennent de pas mal d'endroits, d'Ottawa, de Québec et entre autres, qui veulent justement assister au concert.
Et j'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'être mauricien, d'être natif de l'île Maurice, originaire de l'île Maurice, pour aller voir ce spectacle, ce concert. Parce qu'il y a beaucoup d'amis haïtiens qui nous écoutent en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ont des mariages mixtes, qui adorent le voyage. Justement, parlez-nous un petit peu de ce grand bal mauricien à Mississauga le 9 avril. Est-ce que vous pouvez differ dans la salle, m'a demandé un auditeur. Comment doit-on s'habiller? Est-ce qu'on va servir de la bouffe? Farata, dol puri, gâteau piment, minfrir, alouda.
C'est sûr. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut en ce qui concerne la culture mauricienne. Donc, les gens seront bien servis. Ils n'ont pas à se soucier là-dessus. Et j'ai pas de doute sur l'organisation parce que ils sont en train de l'organiser depuis très longtemps.
Ouais.
Et au niveau du spectacle, surtout, moi, je prépare quelque chose d'inédit parce que j'aime bien justement présenter les choses différemment parce que ici c'est autre chose et le spectacle est ouvert à tout le monde, toutes les personnes qui veulent venir découvrir la culture mauricienne, les chansons mauriciennes, mais aussi il y aura des chansons qui leur parleront beaucoup parce que moi je chante aussi dans d'autres langues qui pourront justement les réchauffer un petit peu le cœur ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un spectacle ouvert à tout le monde que en même temps je passe l'invitation, venez passer un bon moment et découvrir Mr Love et même découvrir d'autres Mauriciens et se familiariser.
Oui, je rappelle aux gens que vous pouvez réserver vos places, madame, monsieur, sur www.segasound.com. Vous retrouverez tous les liens sur popourichaud.com. Mr. Love, concert unique le samedi 9 avril à 20h. Un grand bal mauricien à l'Agora de notre place à 1780 boulevard Meadowvale à Mississauga. En exclusivité, vous avez en ce moment Mr. Love qui est avec nous en direct de Montréal. Et c'est un voyage, hein, Maurice, Montréal, Toronto. Un voyage unique au cœur du Sega. Musique traditionnelle de l'île Maurice. Donc, on espère que les gens seront nombreux et nous avons deux paires de billets pour les auditeurs, les membres de la radio. Vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Un grand merci. Alors, Mr. Love s'est positionné, madame, monsieur, parmi d'autres artistes populaires de l'île Maurice et a développé un vaste public sur le marché de la musique commerciale. Son style unique lui permet de s'adapter à divers styles de musique, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, le R&B, la soul, le reggae, le dancehall, le slow, le segue, les blues, kizomba, le zouk, donc tout. Ça, c'est notre auditoire, ça. Vous savez, nous avons des gens de l'Afrique, des îles, de l'océan Indien, de l'île de la Réunion, Rodrigue, qui nous écoutent hein, régulièrement. Est-ce que vous êtes allé en Australie? Parce qu'il y a des Mauriciens qui m'ont demandé quand est-ce que vous allez leur rendre visite.
Alors, moi, j'étais justement en Australie en 2019, juste avant la Covid. Et donc là, on prépare justement une tournée très bientôt pour l'Australie. On attend quelques retours des organisateurs.
Oui.
Ils sont en train de chercher des endroits adéquats pour réaliser le concert et tout. Mais ce sera pour très bientôt.
Et si je comprends bien, vous partez juste après pour Londres, hein?
Oui, tout à fait. Dès que je termine le concert à Toronto, je serai en déplacement pour Londres la semaine ensuite.
Alors, Mr. Love, je vais vous demander un petit service. Pouvez-vous nous redonner un de vos succès préférés rapidement pour les auditeurs?
Alors, la chanson qui marche très très fort en ce moment, surtout, c'est « Rends-moi fou ». C'est un petit figure que j'aime bien, les gens aiment bien, petit rythme très très traditionnel, bien de chez nous, et qui parle d'amour, bien sûr, donc voilà, avec grand plaisir. Ok, c'est bon. Oui, 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 rends-moi fou, parce que l'amour fin envahir partout. N'a pas une minute, n'a pas une seconde, vis ou visage qui reste toujours dans mes pensées. Mais oui, wapé, rends-moi fou, parce que l'amour fin envahir partout. N'a pas une minute, n'a pas une seconde, vis ou visage qui reste toujours dans mes pensées.
Voilà. Bravo, 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 Ludovic Lamarque et Mr. Love, pour la première fois sur nos ondes. J'espère vous voir en personne un jour à Toronto sur les scènes de Harbourfront ou encore avec... vous savez, nous avons un grand festival Afrofest que la radio a démarré il y a près de 25 ans. Alors j'espère, dans un grand parc à Toronto, au bord du lot, au bord de lac, c'est pas la plage de l'île Maurice, mais c'est au bord de l'eau. Alors j'espère qu'un jour on aura l'occasion de vous inviter. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance, me souhaite ou la santé et aussi bon voyage de retour. Ludovic Lamarque, Mr. Love, au revoir, salam et à bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt. Merci pour cet accueil et j'espère aussi d'être des vôtres très prochainement après le concert du 9. Mais en tout cas, bonne parée, nous mettre la faille à le 9. Merci beaucoup, merci à tout le monde.
Allez, bien le bonjour, tu bandimoun.
Merci.
Au revoir. Eh oui, quel plaisir d'avoir reçu Monsieur Love pour la première fois. Ludovic Lamarque, grand artiste mauricien, merci pour votre grande générosité. Et merci à tous les Mauriciens qui ont facilité cet entretien. Quelle belle collaboration. J'espère que vous serez nombreux, madame, monsieur, au rendez-vous samedi prochain. J'ai deux paires de billets pour les auditeurs et membres de la radio. Veuillez nous envoyer un message immédiatement à popourri@cut.fm ou visiter notre site web pour avoir tous les renseignements sur le bal mauricien. Un bal mauricien. Un rendez-vous unique avec un artiste incontournable de passage à Toronto pour la première fois. Merci à monsieur Gérard Poupée pour sa collaboration à nos émissions. Et aussi merci à tous les auditeurs, internautes de Lyon, de Montréal, de Port-au-Prince, de Haïti, de la ville de Québec, de Rennes en Bretagne, de Marrakech au Maroc, de Mississauga, Niagara et Welland en Ontario. Bien le bonjour. Et je vous invite à être nombreux dimanche prochain, madame, monsieur, 10h, ancien hôtel de ville de Toronto. Et oui, monsieur Poupée, il sera là. Et merci à DJ Devera, France 24, France Inter, TV5 Monde, RTL, monsieur professeur Eddie Bouraoui, bien le bonjour à vous et toute la famille. Jean-Jules Benoît, bien le bonjour. Darnas Torou, bien le bonjour. Il me reste que quelques secondes avant de décoller. Et oui, nous partons très très loin pour quelques semaines. Je vous souhaite un bon dimanche, bon appétit si vous êtes à table. Bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches et que la force soit avec vous. Je vous laisse avec Monsieur Love, Mr. Love.
Fait la tête s'habiller. Ce l'écho bien dessiné, il fait tout lisier braquer. Les temps lui faire se l'entrée. DJ même pas fait capable résister, non. Elle a les commence qu'à danser, les qu'à danser.
Les roule, ce beauté en diablé.
Sa couille, ce silhouette déhancé. Sa galope fait nous trembler.
Les continuer qu'à danser, les qu'à danser.
Les roule, ce beauté en diablé.
Sa couille, ce silhouette déhancé. Oui, c'est lui-même la reine de la soirée.
arena. Vim my doigt dans mon les bras.
Ouah, mama, mama, mamacita.
On fait pas dans ma carena. Vim my doigt dans mon les bras. Cocktail, vodka, mon coup donne-toi. Pour faire toi danse Macarena. Allez bébé, roule ça pour moi. Montrez-moi comment te faire ça. De peut-être manger à la ronde et timique. Pour ma dire si tu es gominé. Que de mini la mon pote de fin la gué. Figue Mr. Lanati pour mettre ta série. Série. Nous mettre ta série. Figue Mr. Lanati pour mettre ta série.
Hey Mr. Lova Lova, ou bien fait mine la roule ça en bas, Big Funky veut faire lit tout sali, dans une mini nous pas capable chini. Mi corazon vin get nati gong, moi même toi fais les tout dans mon les mon mot pas en bad boy al capone, mais seulement ma pour qui te pom pom,
ya. Mama, mama, mamacita,
ou fait toi dans ma carina, vin my toi dans mon les bras. Macarena, vin ma toi dans mon libra.
Hey, moi veli tipa tipa. Un tika dans lambada. Et j'aime moi pas faire comme ça. Sinon, les poudres sont maman, sous papa.
Ouh, oui, sa femme l'a danseré. Manier qui l'y maîtrise. Ce battement qui peut faire moi envoûter. Oh, 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 ah. Palais de loin, timide. Filin pour nous métallis, Seigneurita mon envie, coller serré, coller serré.
Yo, YouTube.
Sa couche un silhouette déliancée, sa galope est fait nous trembler. Sa couche un silhouette déliancée, oui c'est lui-même la reine la soirée.
Ah, mama, mama, mamacita.
Vous faites pas danse Macarena. Vin my toi dans mon les bras.
Ouah, mama, mama, mamacita.
Vous faites pas danse Macarena.